7h25. On a beaucoup parlé de la DPJ. Nous sommes tous dans l'attente du rapport de la commission Laurent. On a entendu les intervenantes, on a entendu des avocats impliqués dans différents dossiers. Mais ce matin, on va essayer, en fait, laisser la parole à Nathalie. Nathalie est famille d'accueil. Elle l'a été depuis 2019. Et on sait qu'il y a eu des campagnes pour trouver des gens qui, c'est pas quelque chose de simple et de facile, étaient prêts à accueillir des enfants abîmés par la vie. Et elle va nous raconter son expérience des deux dernières années avec un enfant et à quel point, malheureusement, l'intérêt de l'enfant passe en deuxième place et que souvent, ce sont les parents biologiques qui sont toujours omniprésents dans le décor avec des conséquences qui sont malheureusement désastreuses pour l'enfant. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
D'abord, depuis le mois de mars 2019, vous avez été, en fait, vous êtes famille d'accueil accréditée, là, comme on dit, par la DPJ, et vous avez accueilli chez vous un enfant. Il avait quel âge à l'époque, cet enfant-là?
Il venait tout juste d'avoir 5 ans.
OK. Et qu'est-ce qu'il y avait comme milieu de vie, là, sans aller dans les détails trop, là, pour, on ne veut pas l'identifier, mais pourquoi il s'est retrouvé chez vous?
Bon, les raisons, là, les causes de compromission, comme on l'appelle, là, il y avait eu abandon, négligence et violence conjugale. C'était un enfant qui était polytraumatisé. Il y avait eu 8 milieux de vie à peu près là, dans ces 5 années-là. Des fois avec sa mère biologique, des fois en famille d'accueil. Quand on me l'a confié, il avait été confié avant à un membre de la famille, en famille de proximité qu'on appelle, en placement de proximité. Puis quand il m'a été confié, il avait subi des mauvais traitements dans ce placement-là.
Donc, si vous aviez à me décrire, quand il est arrivé chez vous, là, il était dans quel état?
C'était comme une petite bête sauvage. Il faisait beaucoup de crises, il était très violent, il avait peur, beaucoup de terreur nocturne. Il criait, il pleurait. Puis en même temps, quand il était calme, il était très posé, très attachant. Il y avait comme deux côtés de lui là, qui se battaient un petit peu là, pour savoir qui allait prendre le dessus.
Puis comment vous y êtes pris pour l'apprivoiser, là, si je peux prendre ce terme-là?
Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de patience. Les intervenants m'ont quand même soutenu. Là, j'avais des rencontres avec des psychologues pour avoir des trucs, essayer de comprendre un peu son bagage, mais en même temps, tout est très confidentiel. Fait qu'on me disait jamais rien. Ça venait toujours de « Ah, ben l'enfant vient de me verbaliser ça. Est-ce que c'est arrivé pour de vrai? » Ah, là, les intervenants me disaient « Oui, donc tu peux peut-être... » de lui répondre ça. Donc, c'était toujours au compte-gouttes, mais ça a été beaucoup de patience puis de douceur, puis d'y aller à son rythme.
Vous m'avez écrit, et je vous cite, là, « J'ai été témoin du travail extraordinaire d'intervenants, d'intervenantes dévoués, coincés dans une lourdeur administrative et un système de justice défaillant. » Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, mais écoutez, toutes les décisions doivent passer par des comités, doivent passer par une des approbations. Par exemple, pour lui couper les cheveux à cet enfant-là, parce qu'il avait les cheveux trop longs, ça le dérangeait. Mais là, ça prend l'autorisation de la mère biologique pour couper les cheveux. Puis là, la mère refuse. Donc là, les intervenants doivent me dire, vous pouvez pas couper les cheveux. Donc là, c'est sûr que sur le coup, c'est à l'intervenant que j'en veux. Comment ça, je peux pas couper les cheveux de l'enfant? Mais là, après ça, après 2 jours au tribunal, d'essayer de comprendre comment je pourrais lui faire couper les cheveux, là, finalement, le parent biologique, ah, oh, il change d'idée, c'est correct. Tout est très lourd là, quand j'ai besoin d'une autorisation pour des vaccins. Attendez, madame, on va aller voir en haut les autorisations viennent de où. Là, le comité va se rencontrer pour essayer de convaincre le parent biologique. C'est toujours très lourd. Les intervenants sont vraiment débordés. Puis ça, je l'ai vraiment vu, là, sauf que c'est plate parce que c'est eux les premières lignes. Fait que c'est souvent eux qui avaient ma colère ou qui ma frustration. Mais j'ai vraiment vu qu'ils sont pris là-dedans. T'sais, la loi... sont toujours dans ce cadre de loi-là.
Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait une décision, disons, prise par vous, la famille d'accueil ou par les intervenants, les parents biologiques contestaient?
Tout était contesté. Le choix du CPE, le choix de l'école, la coupe de cheveux, le type de vêtements, les vaccins. Tu sais, on a le droit de ne pas faire vacciner nos enfants au Québec, c'est tout à fait, c'est correct, là, c'est un autre débat. Mais là, le parent biologique disait, non, il les a eu les vaccins, faites-le pas. Mais on n'a aucune preuve. Puis là, quand on est allé fouiller un petit peu dans les registres médicaux du gouvernement, il n'y a aucun vaccin au nom de cet enfant-là. Donc, c'est des mensonges qu'il faut aller débattre en cours tout le temps. Et c'est tout le temps l'enfant qui est pénalisé. Là, mes amis sont allés se faire leur vaccin. Moi, j'y vais pas. Là, c'est toujours de tourner un peu autour du pot pour pas mettre le parent biologique sur la fenêtre puis dire que c'est parce que il veut pas.
Vous dites que vous avez vu cet enfant-là, je dirais, au travers de toutes ces requêtes et ces démarches et complications. Le veut pas, ça a un effet, ça, sur un enfant. Oui. Vous l'avez vu dépérir, me dites-vous.
Oui, parce que malgré tout ça, les contacts avec les parents biologiques étaient ordonnés par le tribunal. Donc, à chaque semaine, il devait aller voir ses parents biologiques, sa mère, entre autres. Et à chaque semaine, il revenait complètement désorganisé. Et il est arrivé à un point où il savait que telle journée dans la semaine, c'était la journée où l'intervenant venait le chercher. Il se levait le matin en crise pour pas qu'on vienne le chercher. Donc, il était rendu où il voulait pas. C'était très clair, il ne voulait pas avoir de contact, il ne voulait pas leur parler au téléphone. Mais c'était obligé. Donc, il y a eu des fois où les intervenants ont dû le mettre de force dans le véhicule pour l'amener en visite avec ses parents. Moi, j'ai été très claire dès le début avec les intervenants. J'ai dit, moi, je ne ferai pas ça. Moi, je ne forcerai pas cet enfant-là. C'est un lien de confiance qu'il faut que j'aille avec lui. C'est moi qui s'en occupe 24 heures sur 24. Puis, il est arrivé à un point où ces désorganisations-là, quand il était quand il y avait des contacts, il était rendu trop grand. Il a grandi, il avait 7 ans, il se mettait en danger, il courait dans la rue, il se frappait, il me frappait. Donc, j'ai dû le laisser partir. Ils ont été obligés de le placer en centre de réadaptation à l'âge de 7 ans.
C'est que malgré ce que vous venez de décrire, là, on a un juge ou une juge a déterminé que cet enfant-là, ben, il avait droit. Les parents, en fait, plutôt avaient des droits de visite, de rencontre avec leur enfant.
La semaine passée, on est allé au tribunal de la jeunesse et malgré des rapports de psychiatres, de psychologues traitants, des intervenants, la DPJ est dans sa vie depuis qu'il y a 2 ans et demi à cet enfant-là. Donc, malgré tous ces rapports-là, malgré les rapports qui disent que l'enfant se désorganise, qu'il se met en danger, qui veut pas avoir de contact, la juge a déterminé que c'était pas une raison, que les parents avaient des droits, puis qu'il fallait que l'enfant ait des contacts avec ses parents biologiques.
Et là, vous me dites qu'il est dans un centre actuellement.
Oui, là, il est en centre de réadaptation parce que c'est le seul endroit où ils peuvent assurer sa sécurité. Excusez-moi, ça me rend un peu émotive. C'est le seul endroit où ils peuvent assurer sa sécurité en ce moment.
Puis vous, est-ce que vous gardez malgré tout des contacts? Je sais pas, comme famille d'accueil, est-ce qu'on peut faire des visites?
Mais ça dépend de chaque famille d'accueil. Donc, dans le fond, c'est que si je garde contact avec cet enfant-là, ça veut dire que je peux pas avoir d'autres enfants. C'est parce que j'ai une place en famille d'accueil. Bien honnêtement, en ce moment, je penserais pas me réengager avec la DPJ de toute façon, là.
C'est parce je vais faire une parenthèse, Nathalie, si vous me permettez, parce que j'ai déjà vu des cas comme vous, malheureusement, et on sous-estime, puis le mot est faible, là, l'attachement. Vous n'êtes pas un hôtel, vous n'êtes pas une auberge pour enfants, vous êtes une famille d'accueil.
Oui.
Puis les gens qui acceptent de faire ça de façon générale dans la vie, là, ils s'investissent auprès d'un enfant, puis vous tissez des liens, puis ça fait 2 ans qu'il était chez vous, là. Puis du jour au lendemain, vous voyez cet enfant-là qui, des fois, prend du mieux parce que vous l'entourez, puis d'autres fois, il se désorganise parce qu'il veut pas voir ses parents biologiques. C'est une réaction physique qu'il a, puis vous le voyez, puis vous essayez de jouer l'équilibre là-dedans. Puis quand vous le voyez partir de chez vous, je comprends que vous êtes émotive. C'est pas un chèque, là, c'est pas une location. C'est un milieu de vie que vous avez créé pour cet enfant-là.
Oui, le cliché de la famille d'accueil qui fait ça pour l'argent,
ouais.
Là, je vous dis que il y en a peut-être, là, j'en ai pas rencontré, puis j'ai parlé avec beaucoup de gens. Ça vaut pas la peine. Moi, si j'avais fait ça pour l'argent, j'aurais pas fait ça pendant 2 ans. C'est beaucoup trop de troubles, c'est beaucoup trop de douleurs. Moi, voir cet enfant-là souffrir pendant 2 ans, le chèque de paye n'était pas assez grand pour ça, là. On fait pas ça pour l'argent.
Mais c'est, je vous écoute, puis je pense que les gens ont la même réaction. C'est d'une tristesse parce que, dans le fond, la préoccupation, là, ça devrait être l'intérêt de l'enfant, point.
Oui, mais la loi n'est pas formulée comme ça. Moi, on me l'a expliqué très récemment. Tu sais, quand dans le processus qui a duré à peu près 9 mois pour devenir famille d'accueil, on me l'a pas dit que la loi, c'est toute décision tend à remettre l'enfant dans son milieu familial naturel. Moi, je pensais que c'est toute décision tend à ce que l'enfant soit le mieux. Je pensais que c'était ça. J'étais naïve un peu, je pense, là. Mais quand on m'explique que la loi est formulée comme ça, c'est un peu aberrant. Parce que si le mieux, c'est le milieu naturel, c'est ça qui va arriver.
Non, mais c'est parce que si cet enfant-là est sorti de son milieu naturel depuis autant d'années, arrive un moment où ça suffit, là, comme dirait l'autre. Là.
Oui, puis surtout que cet enfant-là était très clair, je ne veux pas. Mais on me dit, il est trop jeune, on peut pas prendre ça en considération, ça compte pas. Mais si une fois, dans les 2 ans, il dit qu'il s'ennuie de son parent biologique, ah là, par exemple, ça s'est amené au tribunal, puis ça, ça compte, puis ça, on le prend en considération. Mais toutes les fois où il a fait des crises puis il voulait pas, ça, ça compte pas.
Et là, il va se retrouver en centre, puis là, c'est un autre milieu de vie à apprivoiser.
Oui, c'est un autre milieu, puis il va vieillir là-dedans, puis ça me fait mal de savoir que ça aurait peut-être pu être évité. Fait que...
Merci à vous d'avoir partagé ça avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir.
Nathalie, c'est pas son vrai prénom, vous comprendrez, il faut être prudent sur le respect de la confidentialité des dossiers. Mais ce que je veux dire là-dessus... L'intérêt des parents biologiques, pendant un certain temps, on peut comprendre. Là, des gens peuvent avoir un moment dans leur vie, puis là, tu dis, OK. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de l'enfant. Puis là, ça ne peut pas juste être des mots, là, des communiqués de presse d'un ministre où, tu sais, l'enfant est au cœur de nos préoccupations, l'enfant est au cœur de nos réformes. Tu sais, je ne prendrai pas le mot que j'utilise normalement pour qualifier ça, là, mais vous comprenez l'espoir dans les recommandations de Régine Laurent. Que, en fait, les espoirs générés par ces recommandations à venir. Parce que là, tu te dis, on peut-tu s'occuper de cet enfant-là? Pourquoi ils se retrouvent ensemble? Puis de choisir une famille d'accueil, puis c'est, on a besoin de familles d'accueil, puis c'est rare d'avoir des familles d'accueil au Québec, puis des bonnes familles d'accueil. Mais combien de fois j'ai vu ça, là, des familles, hommes, femmes, qui s'investissent auprès d'un enfant, à chaque fois, là, la relation devient compliquée, chamboulée, parce que la mère biologique réapparaît après une cure de désintox, puis elle lève la main en disant « finalement, j'aime mon enfant ». Puis là, elle dérape, puis ça recommence. Puis on étire ça. C'est dans l'intérêt de qui, ça, exactement? De l'enfant? Qui n'a pas vu sa mère pendant 4 ans? Qui a été placé? Poser la question, c'est y répondre pas mal. 7h38.